afraid to die.
'Sieur, ladies and gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à tous, bon dimanche soir à tout le monde. Alors attends, oh là là, il y a des gens qui font Vous êtes sur la causerie, Radio Canu.
Oui, je pas, en fait, mais
d'accord,
pas
ok, donc
moi,
tout se passe bien.
Mais
je vous entends.
Très bien.
Okay.
Donc Radio Canu, la causerie, 22h, 23h, tous les dimanches soirs. Je suis très perturbé par ce début, cette entrée, et beaucoup de monde qui bouge autour de moi, c'est très gênant. Arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Donc ce soir, dans les studios, nous avons Jean-Yves.
Bonsoir.
Clara.
Bonsoir.
Fab.
Salut.
Qui touche plein de boutons.
Et Stan.
Et bonsoir. C'était un tout petit peu perturbant. Donc, vous pouvez nous contacter déjà par mail.
Oui.
Donc sur...
la causerie canu@gmail.com.
Et vous pouvez aussi nous écouter donc sur internet. Et actuellement, bah, vous nous écoutez déjà, mais sur les autres, sur internet, sur les blogs de Radio Canu. Je vais laisser Jean-Fabien.
Si vous cherchez les émissions, les podcasts sur blogs.radiocanu.org/la causerie, ou vous allez sur les blogs de Radio Canu et vous nous trouvez la causerie. Voilà.
Voilà.
Et sinon, sur Facebook. Oui.
Et oui.
Je suis là ce soir.
Et partagez sur Facebook. partagez. Voilà. C'est très important de partager. Alors, ne laissez pas de commentaires vu qu'on lit pas, mais partagez.
Voilà. Les commentaires, c'est sur l'espace blog, c'est bien.
Exactement.
Plus intéressant.
C'est un peu plus.
Et d'ailleurs, merci à celles et ceux qui nous en laissent, parce que c'est intéressant de répondre des fois.
Et ça fait plaisir.
Et ça fait plaisir. Exactement.
Et donc, ce soir, on commence par Jean-Yves, qui va nous parler, donc, est-ce que le maïs est un légume herbivore?
J'ai pas prévu ça.
Malheureusement, ça va être un sujet un peu moins fun, un peu moins joyeux.
C'est vrai.
Mais donc voilà, tu veux nous parler donc.
Je vais vous parler de la Guyane et d'une chose qui s'est passée là-bas. C'est la collectivité territoriale guyanaise qui contestait l'obligation qui lui incombe de rémunérer les ministres du culte catholique. Vous savez, c'est pas partout 1905 la... Salut Clara. C'est pas partout qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État. On en a déjà parlé ici à propos de l'Alsace et de la Moselle. Et ben en Guyane, c'est un petit peu le même schéma. Vu qu'il contestait cette obligation, en fait, ça avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que le résultat, ou comment dire, le jugement, je ne sais pas comment on peut appeler ça, est tombé donc le 2 juin, la décision en tout cas du Conseil constitutionnel, qui a jugé que la rémunération des ministres du culte catholique par la collectivité territoriale de la Guyane est conforme à la Constitution. Voilà. Mais alors avant d'aller un petit peu plus loin, moi j'avais envie de, de rappeler quels sont les textes en vigueur dans cet endroit qu'est la Guyane. Alors déjà, c'est que la Guyane, en fait, contrairement à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, n'est pas concernée lorsqu'en 1911, on a élargi l'application de la séparation de l'Église et de l'État. donc qui date cette séparation de 1905, comme j'espère beaucoup de gens s'en souviennent. Et donc la Guyane, elle est soumise à deux anciens textes qui reconnaissent le seul culte catholique et qui l'obligent donc à rémunérer sur son budget les prêtres, qui officient en Guyane. Alors, c'est donc l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane française.
Ah, ce bon Charles X.
Mais oui, c'était un temps magnifique, n'est-ce pas?
Oh, ça gerbe.
Oui, c'est ça. Il y a aussi la loi du 13 avril 1900. Je crois un peu planté quand j'ai recopié les choses. C'est portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice de 1900, qui a transféré la rémunération des prêtres à la colonie de la Guyane, devenue aujourd'hui collectivité territoriale de Guyane. Et par-dessus encore ces deux textes, parce que jusque-là c'était trop simple, et ben il y a aussi les décrets-lois de 1939 qui sont dits décrets Mandel et qui permettent, rassurez-vous les religieux et les croyants, à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d'une aide publique. Donc finalement, en fait, ce financement du culte catho et des autres, ça représente environ 1 million d'euros par an pour la collectivité territoriale guyanaise. Voilà.
On peut rappeler par exemple qu'il y a eu, il y a très peu de temps, des grandes manifestations en Guyane, parce qu'il y a un manque de moyens.
De moyens.
Et notamment de fonctionnaires, parce qu'ils disaient on manque de profs, on manque de personnes dans les hôpitaux. Par contre, ils ont obligation aujourd'hui de débloquer plus d'un million d'euros pour payer des curés.
C'est ça. Alors, je fais une aparté, je l'ai pas repris, mais je fais une aparté, c'est que justement, il y a une personne qui disait, en fait, moi je dois installer et payer 23 nouveaux pompiers qui arrivent en Guyane, et en fait... Je le sors d'où le pognon, en fait. Donc, je trouve que pour l'ensemble de la population, c'est quand même plus sympa de financer des pompiers qui peuvent te sauver la vie plutôt que des curés de quelque obédience que ce soit qui ont plutôt tendance à te pourrir la vie. Donc, on en revient. Pardon, hein, on s'écarte un petit peu trop de tout ça. On en revient donc à la position de la collectivité qui est que, bah, selon elle, c'est que l'ordonnance de 1828 et la loi de 1900, bah, méconnaîtrait les principes de la laïcité, d'égalité devant la loi, de libre administration des collectivités territoriales et de compensation financière. Et donc, le 30 avril 2014, Alain Tien-Lyon, alors président du Conseil général de Guyane, bah, il prend ainsi 26 arrêtés qui suppriment la rétribution d'une trentaine de prêtres payés comme des fonctionnaires de catégorie C, 1500 balles par mois, et de l'évêque considéré comme un fonctionnaire de catégorie A. C'est un cadre, hein, c'est normal.
Il ne compte pas ses heures.
C'est ça. Mais le tribunal administratif, en juin 2016, donc il y a un an, avait décidé d'invalider les arrêtés après un recours déposé par la mission catholique guyanaise, jugeant que le Conseil général n'avait pas compétence pour mettre fin unilatéralement à ces rémunérations. Donc en fait, bah, le Conseil constitutionnel qui a rendu son avis le 2 juin, bah, confirme en fait la position du tribunal administratif et rejette donc tous les arguments de la collectivité territoriale et juge les textes contestés conformes à la Constitution. Voilà, il n'y a rien qui se passe, tout va bien, merci, au revoir.
Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que si ce n'est pas unilatéral, c'est qu'il faut qu'il y ait une décision d'État.
Alors,
à un moment donné...
Mais justement, j'allais revenir là-dessus, parce que... Alors, juste pour terminer sur ce rendu du tribunal, enfin du Conseil constitutionnel, en fait, ça se rapproche d'une jurisprudence sur le régime concordataire alsacien. Ah bah oui, c'est pas comme si on avait déjà parlé. Hein. Alors, cette jurisprudence, c'était en 2013. Le Conseil constitutionnel avait alors confirmé que, on ouvre les guillemets, les territoires d'Alsace et de Lorraine continuent jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'introduction de lois françaises, des lois françaises à être régies par les dispositions législatives et réglementaires qui sont actuellement en vigueur. On referme les guillemets. En clair, puisque la loi de 1905 n'a pas été introduite par aucun gouvernement ou assemblée de cette région, bah, toute modification doit revenir aux politiques. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que des politiques se bougent pour faire tomber ces choses. Et là, c'est là que ça devient super sympa et super rigolo. enfin ouais, faut bien rire des choses qui sont pas très marrantes, hein. Mais c'est qu'Antoine Karam, qui est sénateur de Guyane, il a déposé en mars 2015, donc il y a plus de 2 ans, et ben une proposition de loi pour supprimer le régime spécial guyanais. Et bien évidemment, je vous le dis, mais vous comprenez bien que, en fait, cette proposition, elle a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour du Sénat.
Donc, alors qu'il y avait Gérard Collomb qui siégeait. Je suis étonné quand même.
C'est étonnant. Pardon. Donc c'est toujours pareil. Donc demander effectivement l'application de la laïcité, on trouvera toujours des moyens finalement de ne pas l'appliquer en retardant, en n'observant pas, en ne regardant pas les lois qui sont posées, et donc c'est toujours un superbe terrain pour les religieux.
Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que il y a quelques partis politiques. Alors, je rappelle, c'est pas pour faire de la promo ou n'importe quoi, c'est juste qu'il y a plusieurs partis politiques qui proposent de constitutionnaliser la loi de 1905, c'est-à-dire de la faire entrer dans la Constitution. Parce qu'en fait, le Conseil constitutionnel l'a dit, bah, comme la Constitution française n'a pas de règles clair sur la laïcité, moi, elle s'applique comme on veut ou selon les territoires. Et en fait, ça fait qu'on a une rupture d'égalité sur le territoire français, comme certains disent, quoi. Et ce qui est aussi pour moi parlant, c'est qu'on voit que les Guyanais sont logiques aussi dans leurs demandes. Parce que on leur reprochait à une époque, quand il y avait les grandes grèves, on disait oui, mais les Guyanais, ils sont pas comme nous, ils demandent pas les mêmes choses que nous. Et en fait, si, on voit bien que, un des trucs sur lesquels ils se battent, c'est de dire, à un moment donné, payer des curés 1 million par an, ça nous coûte un peu cher, quoi. Et ça sert pas à grand chose, on préférerait des pompiers. Vous voyez, c'est un peu le truc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il y a quand même des choses qui se répondent et que contrairement à ce que beaucoup de gens essayent de faire croire, et notamment dans la classe politique, non, la Guyane, c'est pas un territoire totalement différent de la métropole, quoi. C'est juste un territoire où eux aussi ils ont leurs problématiques différentes des nôtres, sûrement, parce que c'est pas les mêmes choses.
Mais comme à Lyon, on n'a pas les mêmes problématiques qu'au Havre, en fait.
Mais qu'on a quand même des points communs, et qui est notamment celui de dire, ouais, il y a un moment donné, t'es bien gentil, mais voilà. Et surtout que la Guyane est depuis très longtemps tenue par des gens qui sont opposés au financement des cultes. Mmh. Donc on voit que c'est vraiment, du coup, la métropole qui agit vraiment en colonisateur, et continue à avoir ça comme ça, en disant non, mais toi tu continues à payer les curés parce qu'il faut t'évangéliser, quoi. Alors que sur place, les gens disent non, on veut plus les payer, mais c'est la métropole qui leur a interdit. Ça, c'est vraiment purement dégueulasse.
Tu voulais... Non, moi, c'est juste ce qui me choque par-dessus tout ça, c'est que même d'un point de vue religieux, d'accepter qu'on paye des curés avant des pompiers, enfin, pour revenir au début, et alors que même si t'es religieux, tu le sais, tu t'en rends compte quand même que ça touche moins de gens que ce que peut aider un pompier. En fait, c'est quand même accepter de se dire que non, c'est juste pour mon petit confort à moi, plutôt que le confort de tous, en fait. C'est un peu chelou dans ma tête.
Oui, effectivement. et puis, moi, après, c'est aussi un rappel que pour tous ceux qui aiment à dire que la laïcité, c'est un truc dégueulasse, en fait, regardez un peu autour de vous et regardez en fait l'oppression et le poids qu'ont les religions. Et même là, on se rend compte qu'en Guyane, comme en Alsace, qui finalement sont des régions françaises, le religieux, il dit encore son mot. Donc j'aimerais bien en fait que celles et ceux qui aiment à dénoncer la laïcité, soit ils affichent clairement leur couleur et qu'ils assument de rouler pour les religions, vous avez le droit, mais assumez votre position. Sinon, les autres, je pense qu'il faut vraiment sortir un peu les doigts et regarder toutes celles et ceux qui ont besoin aussi de soutien et de résonance, en fait. Parce que finalement, que ce soit en Alsace ou que ce soit en Guyane, des gens se battent.
Ou à Mayotte,
il y a des gens se battent pour mettre en place la laïcité. Et finalement, il n'y a plus personne qui les aide, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la gauche et l'extrême gauche surtout, fait le jeu des religieux, en fait, et limite dénonce la laïcité comme quelque chose de dégueulasse. Donc je pense que là aussi, je pense qu'on a vraiment à s'interroger, en fait.
C'est qu'un texte de séparation. Enfin, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un, une grande blonde qui gueule beaucoup, n'a que ce mot à la bouche pour finalement le détourner de son sens premier, qu'il faut se laisser avoir par la grande blonde qui gueule beaucoup. Alors c'est vraiment qu'on a très très peu de jugeotes politiques, et c'est peut-être ça qui est un peu grave. Et là, moi, je voudrais juste dire que quand je citais Mayotte, c'est pas pour rien, c'est qu'aujourd'hui à Mayotte, la problématique se pose d'autant plus de façon prégnante, c'est qu'on leur demande de trancher dans le budget de Mayotte entre la construction de mosquées et la construction d'écoles. Et quand on en est là, ça devient un peu problématique. C'est-à-dire que il faut lire d'ailleurs, il y a des syndicats de Lille qui ont écrit là-dessus en disant mais attendez, on nous demande de trancher entre le culturel et le cultuel, et ils disent mais non, il y a un moment donné la priorité c'est que les enfants aillent à l'école, vous voyez, c'est juste ça quoi. Et donc c'est pas anodin en réalité. On dit toujours oui non mais c'est un second problème. Non, quand ça devenir des arbitrages budgétaires, c'est pas anodin. Voilà.
Eh ben, je crois qu'on a dit pas mal de choses. Non, j'allais dire on a tout dit, mais non, on n'a pas forcément tout dit, mais en tout cas, on a donné nos points de vue. Eh ben, on passe peut-être à la ZIC. Allons-y.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le coup d'envoi de la bataille du second tour dans une fausse politique chamboulée.
Un mouton. Bah. Pardon, vous êtes toujours dans la causerie sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter un nouveau titre de Richard Gottener. Ouais.
Oui.
On n'a même pas honte, ou en tout cas, j'ai même pas honte.
Moi, j'adore Richard Gottener.
Et le
Gottener.
Titre s'appelle donc Les Moutons, vous l'aurez compris. Et je vous invite vraiment. Alors, la fin de la chanson et même le début indiquent un peu de quoi il parle. Mais le clip est très parlant quand il parle des moutons.
Oui. Soyons plutôt des bêtes de proie.
C'est ça. Eh bien, voilà pour moi. On va continuer avec Fab. Tu vas nous.
Oui.
Ah bah. T'as piqué un peu le thème à Stan, hein. Uh-huh. Web série,
ouais,
tout ça.
C'est vrai.
Espèce de voleur.
C'est vrai, pardon. Et ben, comme c'est la quinzaine des fiertés, je me suis dit, ça valait le coup.
Fierté LGBTI.
Parce que, bien sûr, la Pride arrive sur Lyon, la marche des fiertés. Donc, du coup, je me suis dit, ça valait le coup de présenter deux nouvelles web séries qui viennent de sortir un peu en même temps, qui sont, toutes les deux autour des thématiques LGBT. Alors je vais commencer, je le dis tout de suite, par celle que j'ai la moins aimée et je terminerai par celle que j'ai la plus aimée. Voilà, comme ça vous serez pas surprise et surpris. Alors je vais commencer par Les Engagés, qui est une web série française coproduite par France 2 et Studio 4 et qui deviendra sans doute une série et qui est même éditée en DVD chez Optimal pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors le créateur c'est Sullivan Le Postec, la réalisation c'est Jules Tenier et Maxime Potera. Voilà, la photo est c'est Juan Sico et puis la musique est de Franck Lebon. Voilà, ça c'était pour citer les gens qui ont travaillé sur l'objet. Et maintenant on va citer quand même les acteurs et actrices, les cinq principaux, c'est quand même mieux. Donc on a Mehdi Mescar qui joue Hicham, Éric Pucheux qui joue Thibaut, Denis D'Arcangelo qui joue Claude, Nanou Harry qui joue Nadjet, la sœur d'Hicham, et Claudine Charrère qui joue Muriel. Voilà. Je vais vous résumer vite fait l'histoire. Le point G, qui est un centre LGBT situé à Lyon. Donc en fait, on aura tous compris qu'on parle du centre LGBTI de Lyon, dont on vous parle souvent dans l'émission. Thibaut est un militant plutôt actif, très engagé dans la lutte pour les droits des homosexuels. Et son quotidien est soudain bouleversé par le retour dans sa vie d'Hicham, une connaissance qu'il n'avait pas revue depuis des années, et qui vient chercher auprès de lui la force de faire son coming out. Et de trouver sa véritable identité. Hicham admire le charisme et l'engagement de Thibaut, mais jeté brusquement au milieu des luttes politiques du point G, il va rapidement en percevoir les limites et les contradictions. Ça, c'est la jaquette. Je suis pas embêté, j'ai lu le derrière. Voilà. Alors, je vais commencer par. Oui, on est de la jaquette, elle était pas mal, mais c'est pas voulu.
C'était derrière.
C'était derrière. Ah ouais. Finalement, ce soir, je suis au top. Hein. Alors, je vais commencer par les points forts de la série parce que je trouve que c'est intéressant. Donc déjà, le parcours d'Hicham, il est plutôt intéressant et bien amené. Le personnage est assez attachant. Et puis, en fait, ce que je trouvais bien, c'est que ses désirs et ses envies de liberté sont plutôt bien rendus dans la série. C'est-à-dire qu'on sent les questionnements, les envies de la personne et du personnage. Voilà. Les notions autour de l'unité dans la lutte sont plutôt généralement bien amenées. Moi, j'ai un exemple en tête sur la recherche d'un témoin suite à une agression, où plein de gens du centre se mettent ensemble pour retrouver ce fameux témoin. Voilà. Les lieux lyonnais sont identifiables, donc pour les Lyonnais c'est cool parce que c'est une série qui est dans d'autres villes, donc ça, c'est marrant, c'est bien. Bon, par contre, à titre perso, je trouve qu'ils sont mal exploités, c'est-à-dire que on sert de lieux, mais je trouve qu'on les exploite mal au point de vue visuel. Je reviendrai dessus. Et par contre, l'idée de montrer le milieu militant, c'est une bonne idée parce que surtout ça n'a jamais été fait et jamais fait de façon frontale en France. C'est en vraie réalité la première vraie série LGBT française au sens premier du terme, sans que ce soit des personnages secondaires ou autres. Non, là c'est la thématique centrale, donc ça c'est plutôt cool parce que ça manquait. Et là je vais passer au point faible. Alors je suis désolé, mais voilà. Alors déjà, un gros point faible de la websérie Les Engagés, c'est le côté caricatural des personnages. Autre que Hicham. Alors, ce qui est drôle, c'est que Hicham est très bien rendu, le personnage est complexe, il est, voilà. Alors, par contre, tous ceux qui les entourent, c'est terrible parce que c'est des caricatures totales. Le militant, donc le fameux Thibaut, il est super militant. J'ai presque envie de lui mettre une cape et un S sur le torse comme super militant. Et il a tout vécu, tout vu, il a réponse à tout. Ouais.
Non, j'allais dire super militant, ça fait SM.
Là, mais je vais m'arrêter là.
Tu veux la torpiller, ma chronique de la soirée.
Je m'arrête.
Donc voilà, mais donc vraiment lui déjà par exemple, c'est un premier truc que je trouve vraiment vraiment pas terrible, c'est ce côté très caricatural et très monolithique des personnages, et du coup on a du mal à s'y attacher parce que on se dit non, mais ça existe pas dans la vie, et ça n'existe pas dans la vie en réalité. Donc voilà, la deuxième chose, et là par contre je me tirerais presque les oreilles au créateur de la série, c'est que les femmes, elles sont systématiquement montrées soit comme hystériques. Hein, alors on prend l'exemple de l'arrivée d'Hicham qui arrive à l'espace LGBT, au point G dans la série, et c'est une soirée non mixte. Et bien sûr, évidemment, il a tout son barda sur le dos, mais la lesbienne qui lui ouvre, elle est tellement conne qu'elle lui claque la porte au nez en lui disant mais c'est une soirée non mixte, hein. Voilà, ça franchement j'y crois pas deux minutes, et surtout quelle image quelle image pour les lesbiennes, quoi. Voilà,
encore une fois, c'est parce qu'on a fait la fin. C'est un personnage beaucoup trop caricaturé.
C'est ça.
Et qui est de lui-même, qui incarne beaucoup trop de choses, en fait.
Et du coup, ça en devient un peu surréaliste. Enfin, dans le mauvais sens du terme. Et puis, ou alors, soit c'est des mamans douces et gentilles, hein. Donc, voilà. Donc, c'est ou soit l'un, soit l'autre, hein. Et la maman, elle va modérer la table, hein, quand les gens se parlent. Et puis, elle va être gentille. Puis, elle va venir caresser les gens pour leur dire, mais c'est pas grave, tu sais, tout ça. Franchement, ça, c'est trop. Voilà. Et je trouve. Et alors, deuxième point, je sais que c'est dur de parler des personnes trans, mais alors là, elles n'existent carrément pas, hein. Donc, franchement, il y a un moment donné. Alors, quand je dis que c'est dur, je plaisantais, hein, en disant ça. C'est que non, quand on représente un espace qui est censé être un centre LGBT, I, voilà, ce serait bien de pas oublier les T, hein, et voilà, c'est
les même les I.
Et même les intersexes, quoi. Mais là, vraiment, c'est carrément, il n'y a pas de personnage, qui parle de la transidentité, ou voilà, ou qui incarnerait une association trans qui serait dans le coin, ou quelque chose comme ça. Et là, bah, franchement, je me dis, quel sacré oubli, quoi, enfin, voilà. Du fait, ben, la volonté d'insister lourdement sur le côté militant tout en le rendant sexy, les personnages, fait que ben, tous les personnages sont aussi jeunes et bien gaulés. Hein, ça, c'est bien connu, hein, dans le milieu militant, il n'y a que des gens jeunes et bien gaulés. La preuve, quand on me voit. Et donc voilà, donc c'est assez étonnant, parce que je trouve vraiment, ça éloigne de la vie. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, ils sont tous dans la même tranche d'âge, ils se ressemblent tous, ils ont tous, voilà. Et puis, petite erreur, on en parlait, je l'avais noté plus loin, mais je pense que tu pourras, Stan, plus en parler. Il y a aussi l'hypersexualisation ridicule qui est amenée, mais qui est mal amenée. C'est-à-dire, le milieu gay, en fait, il se résume à soit tu milites et tu fais chier tout le monde, soit tu baises, mais tu baises hyper, hyper énormément bien. Hein. Enfin, c'est voilà.
C'est un petit peu un reproche que j'ai fait, parce que j'ai forcément regardé aussi la série, vu qu'on m'a pris un sujet qui m'intéresse. Donc, je m'y suis intéressé. Le problème, c'est pas que la situation ne colle pas. C'est-à-dire que. Bon, il fait une soirée, ils couchent à plusieurs, etc. Il n'y a pas de problème. Enfin,
elle est plausible, mais elle tombe pas plausible. Au bon moment.
Mais en fait, on commence par ça. Voilà. La première scène de sexe, en fait, c'est ils sont trois, etc. Machin, Hicham arrive. Enfin, voilà, c'est dommage, en fait, de commencer par ça, parce que ça reste sur cette espèce de cliché, en fait, dans le milieu gay, il y a tout ça. Encore une fois, il y a. Mais oui, c'est dommage de le présenter comme ça, de commencer par ça, en fait.
Surtout, c'est pas cohérent, parce qu'on est au début du parcours d'Hicham et que du coup, on se dit non, mais là, il y a un moment donné, il est lui-même perdu. Enfin, c'est trop, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu, vas-y, on rentre dans la centrifugeuse, on va voir ce que ça donne, quoi.
Et je dis maintenant, mais. Et puis, en plus, c'est la manière dont le lendemain, il leur dit au revoir quand Hicham, justement, arrive. Oui. Il dit, ça, c'est numéro 1, numéro 2. Ouais. Alors là, en plus, ça fait vraiment passer, même les queutards, même celles et ceux qui aiment baiser, pour des animaux. Ouais. Alors j'ai juste envie de dire au réalisateur, si tu veux, viens un jour avec moi, on va se promener même sur des lieux de drague. Les gens se parlent avec des prénoms, tout ça, en fait. On est des humains, en fait.
Ah oui,
et que c'était vraiment déshumanisant, je trouve ça. Ouais.
Donc ça, c'est le truc. Et alors après, et puis surtout, un truc, moi, je trouve que la série, et je le dis, elle est vraiment anti-vieux, et ça m'a gonflé. Elle fait de l'agisme à outrance, c'est-à-dire que tous les personnages un peu âgés, c'est des 68ards qui nous font chier, ils sont grande gueule, puis ils ont rien compris, alors que nous les jeunes on a tout compris. C'est un peu ridicule, et honnêtement, moi je remercie grandement les gens qui tiennent depuis des années ces lieux-là, et qui ont, oui, effectivement un certain âge aujourd'hui, parce que l'âge avance, mais les mépriser un petit peu comme c'est fait dans la série, j'ai trouvé ça un peu pourri, voilà. Donc voilà. Et puis alors le dernier truc, c'est le côté plus belle la vie. Alors là, je suis désolé, mais il y a un côté plus belle la vie.
Plus belle la nuit.
Ouais, plus belle la nuit, c'est vrai, c'est ce que tu disais.
J'en reviendrai juste après. Là,
c'est-à-dire, il y a des rues complètement vides, donc c'est-à-dire on est au milieu de la rue, mais il n'y a personne. Il y a des lieux qui sont filmés où c'est surréaliste, un sauna gay où tout le monde il est très très prude et il garde bien sa serviette, et puis tout le monde est bien gaulé, d'ailleurs c'est un truc de fou. Hein, voilà, je pense qu'il faudrait aller au sauna voilà aussi.
On va inviter le réalisateur.
Faut vraiment qu'il bouge. Mais voilà, alors tout le monde est bien gaulé, tout le monde. Non, mais en fait, ça, on sent que c'est pour être vendu. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est pour être vendu. C'est plus que pour être réaliste, c'est pour être vendu. Et puis, ouais, et puis les scènes sont tournées, mais alors, c'est là que. Vraiment, c'est pas crédible, c'est-à-dire que les dialogues sont pas crédibles. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, d'une militante qui part avec la sœur d'Hicham, qui se retrouve dans les pentes de la Croix-Rousse, et là, elles ont collé par-dessus les panneaux Olympe de Gouges pour dire, voilà, vous voyez, il y a...
Par-dessus le nom de la rue.
Par-dessus le nom de la rue, parce que les rues n'ont que des noms de mecs, et je suis d'accord avec elle, il faudra mettre des noms de femmes, et que là, du coup, elles ont collé Olympe de Gouges. Et la sœur dit, mais qui est Olympe de Gouges? Et là, la militante part dans un dialogue, mais que vous ne verrez jamais dans la vie, enfin, j'espère, ou alors vous avez des amis très chiants, qui est, mais alors, mais surréaliste, c'est-à-dire c'est un dialogue militant de A à Z, mais tu sais pas qui c'est, mais elle avait fait ça et ça, et puis elle historiquement elle avait fait ça, et puis tu sais c'est grâce à elle que, non mais il y a un moment donné c'est pas réaliste, et là on se dit mais qu'est-ce que tu veux montrer, c'est-à-dire est-ce que tu veux nous montrer uniquement que les militants sont tous des gens un peu chiants, ou est-ce que t'as envie de nous dire en fait les militants c'est des gens qui vivent, voilà, ça c'est le défaut que j'avais, que j'ai trouvé, voilà.
Oui, j'en ai encore plein de choses à dire là-dessus. Ouais. Pourquoi je les ai plus belles la nuit? Je sais pas si tu veux en parler juste après.
Ah, vas-y.
Il y a quelque chose qui se passe en fait dans cette série. J'imagine que c'est pour des raisons X et Y qu'ils ont fait ça. Mais c'est filmé essentiellement soit au petit matin, soit un peu tard le soir. pour des raisons, je ne sais pas exactement lesquelles. Mais ça fait qu'il n'y a personne. On est à Pont-de-la-Croix-Rousse, il n'y a personne. On est en pleine ville, il n'y a personne. On est devant la Bourse du Travail, il n'y a personne. C'est à Lyon. Donc on vous voyait Lyon, sans personne. c'est assez fou, en fait. Et ça décrédibilise un petit peu la chose, parce que ça rend assez complètement surréaliste, en fait, la situation. C'est qu'il n'y a vraiment personne, quoi.
Le Grand Lyon, c'est 2 millions d'habitants. On se doute bien que c'est une ville où il y a du monde qui passe, quand même, quoi. Voilà. Et alors, je voulais dire aussi, un truc qui, moi, m'a gêné. Bah ouais, les scènes de manif, par exemple, sont assez, à mes yeux, ridicules. Je le dis, je suis désolé pour le réalisateur, mais je veux dire, quand on fait une scène de manif où on a que 15 ou 20 figurants, on essaye de la filmer en plan serré. Là, c'est pas crédible. Et le discours militant qui est fait après, à l'issue de la manif, n'existe pas. C'est-à-dire que personne ne parle comme ça. Je veux dire, voilà. Et c'est un peu dommage, justement, de ne pas avoir pris peut-être même pas des acteurs, mais des militants pour jouer leur propre rôle, qui aurait été plus crédible dans la façon de parler aux médias, dans la façon de faire des vidéos pour le web. Voilà. Et puis moi, le dernier truc, c'est que j'ai trouvé un peu dommage, parce que finalement, pour une série qui s'appelle Les Engagés, alors c'est Les Engagés mecs, hein, a priori, hein, vous aurez compris, il y a très peu de femmes. Pas de trans, pas voilà. C'est donc très gay centré et surtout, bah, je trouve que c'est très dépolitisant en fait malgré eux, parce que finalement, on découvre au fil du temps que bah, les gens s'engagent, mais pas pour des raisons très logiques. C'est-à-dire, ils s'engagent pas parce qu'ils sont contre l'homophobie, ils s'engagent parce qu'ils ont une rupture de cœur, ils s'engagent parce que machin. Et en fait, du coup, ça donne une image qui est assez bizarre. Et je trouvais que ça faisait un peu série Macron, pardon de le dire comme ça, mais ni quoi. C'est-à-dire, oula, je suis ni de gauche ni de droite, je m'engage pas trop, je me mouille pas trop. Et là aussi, on sent que c'est pour la vendre et c'est un peu dommage. Voilà, mais je le dis, c'est une série qui mérite d'être vue parce qu'elle aborde un sujet qui est rarement abordé et qui quand même est intéressant malgré tout, notamment le parcours d'Hicham que je trouve vraiment très bien rendu. Voilà.
Et il ne faut pas oublier que notre situation est très facile vu qu'on est là en critique.
Oui, tout à fait.
De tout ça et que c'est sûr, c'est extrêmement dur de réaliser et qu'il y a plein de choses qu'on voit après coup, oui. Mais qu'on n'aurait pas forcément pensé sur le moment.
Mais je le redis, j'encourage les gens à la regarder quand même.
Oui, voilà, il faut la regarder.
Faut le dire, c'est quand même pas non plus. Mais je trouve dommage qu'avec le tapage qu'il y a eu autour de cette série, on n'ait pas eu quelque chose qui soit un peu plus carré. Voilà, c'est juste ça que je regrette.
Mais et juste parce qu'on n'a pas précisé, hein, c'est très facilement Les Engagés sur YouTube. Vous êtes dessus,
oui.
Quoi.
On mettra le lien de toute façon sur le blog.
On mettra tous les liens. Et en plus, effectivement, la notion, c'est pas de dire à vous, auditeurs, auditrices, de pas écouter. Enfin, on n'est pas un conseil de censure. La censure, on lui chie dessus. Donc, la meilleure des choses pour savoir ce que.
Faites-vous
vous
une idée.
En pensez, c'est faites-vous votre propre idée.
Et il y a des choses très intéressantes. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre. Et
je vais le dire. Et je vais le dire à la radio, c'est que j'en attendais beaucoup et que je suis un peu déçu.
Oui,
je pense qu'il y a
tout
aussi de ça.
Je
le dis franchement. Et puis après, je vais vous parler d'une deuxième web série qui elle est belge. Donc voilà, qui s'appelle La Théorie du Y. Alors que je suis tombé dessus totalement par hasard. Alors là, par contre, j'en attendais rien du coup, vu que je savais même pas qu'elle existait. Donc c'est une web série qui est coproduite par la RTBF et qui devrait devenir une série, mais c'est pas certain parce qu'ils cherchent des financements pour arriver à faire quelque chose de plus gros. Bon, alors, il paraît que Benoît Poulvord a adoré et qu'il voudrait les aider, donc ça peut peut-être aider, on va le savoir, surtout en Belgique. C'est tiré d'une pièce qui avait le même nom, La Théorie du Y. Voilà. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est que la RTBF avait lancé un concours, elle avait demandé à des gens de faire des pilotes, il y a eu 5 autres séries. En plus de celle-ci, elle a demandé aux gens de voter, et c'est celle-là qui arrivait largement en tête. Et pourtant, vous allez voir, c'est pas évident, vu le sujet. Donc, la créatrice, co-réalisatrice et co-scénariste, c'est Caroline Taillet. La co-réalisation et le co-scénariste, c'est Martin Landmeters. Le co-scénariste, c'est Thomas Vilquin. Donc, ils sont 3 pour les scénarios. Et la musique est de Nicolas Testa. Et alors là, moi, je vous dis, la musique, là, ça a une grande importance. Vous verrez, je vous en reparlerai. Au niveau des acteurs, on a Léon François, qui joue Anna. Ophélie Honoré, qui joue Claire. Violette Deleu, qui joue Lucie. Salim Talbi, qui joue Malik. Et Colin Javot qui joue Mathéo. Voilà, ils sont tous excellents. Je vous le dis franchement. Alors, résumé, c'est Anna qui réalise qu'elle s'ennuie dans son couple avec Mathéo. Et lors d'une soirée, elle se découvre une attirance pour Claire. Cet événement va entraîner Anna dans une quête d'identité. C'est simple comme scénario et pourtant. Et pourtant, on se retrouve devant une série vachement complexe et plutôt intéressante. Voilà. Alors, je vais parler des points forts, tout de suite. Les scénarios, il est réaliste, déjà, et il nous pousse à remettre en question les clichés sur les sexualités, et en particulier sur la bisexualité. Et ça, rien que pour ça, faut la voir. Voilà. Non, mais voilà, c'est intéressant. La réalisation, elle est très très bien, elle est vraiment au top. Il y a des vrais choix artistiques qu'on ressent dès le début, c'est-à-dire dès les premières minutes de la série. Par exemple, il y a le choix de faire rentrer dans la tête de l'héroïne quand elle a des doutes, quand elle se pose des questions. Et donc c'est assez marrant parce que ça fait des petites scénettes surréalistes.
C'est exactement, enfin, pour vous imaginer, c'est comme quand vous faites une petite crise d'angoisse, vous vous imaginez le pire.
Oui, c'est ça.
Et c'est en fait, c'est vraiment ça qui se passe. C'est qu'elle s'imagine, et donc on voit le pire qui se passe pour elle dans sa tête. Ce qui pourrait se passer, en fait.
Parce qu'elle a toutes ses anticipations, ses visions, ses craintes, ses peurs, et on les vit, c'est assez intéressant. Et ouais, c'est un peu surréaliste, c'est très drôle de pouvoir rentrer dans la tête de quelqu'un, et je trouve ça assez marrant.
Non, et que, et qu'en même temps, ça renvoie à l'individu. En fait, oui. Et que nos parcours, etc., même si on est des communautés, etc., on est des individus avec son parcours et avec nos propres interrogations et peurs, et que c'est génial, comme c'est mis en image, en scène, c'est génial.
C'est quoi. Ça, et du coup, il n'y a pas de côté caricatural, mm-hmm. parce qu'il y a le côté, chaque personne étant différente, ben voilà. Les actrices et les acteurs sont vraiment au top, ils ne surjouent jamais, hein, ça c'est bien, alors, contrairement au côté Plus belle la vie que je disais pour la série d'avant, et ils sont souvent très très justes, c'est-à-dire que c'est bizarre, mais quand on regarde la série, ils deviennent un peu des potes, c'est-à-dire qu'on a un peu envie de... On se dit, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est un peu marrant, mais c'est la preuve que c'est bien fait. Et puis surtout, ça donne pas l'impression d'être des hétéros qui jouent des LGBT. Et ça, j'ai trouvé ça bien, parce que malheureusement, dans beaucoup de séries, les personnes qui jouent sont hétéros, ça se sent. C'est-à-dire que voilà, les gestes sont pas très très bons, sont pas assurés, les gestes tendres notamment. Et alors que là, du coup, ça passe très bien, c'est assez cool. Moi, je trouvais que la notion de doute, de crainte et de peur était bien marquée, mais sans être pathos. C'est-à-dire que, oui, on a tous dans la vie des moments où on doute, où on a la trouille, où on se dit, oh là là, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou là, mais pourquoi je suis attiré par telle personne? Mais oh là là, mais c'est bizarre, mais je suis un peu étrange. Sauf que c'est pas forcément dramatique d'avoir peur. Ça fait partie de la vie. Et que là, justement, c'est pas monté avec un côté pathos, genre musique larmoyante, machin. Non, c'est plutôt monté, ce qui nous se passe vraiment dans notre tête. Ça va vite, on sait pas trop où on en est, et c'est hyper intéressant. Moi, je trouvais ça très bien rendu. Et c'est très bien rendu pour plein de personnages, pas seulement pour l'héroïne. C'est ça qui est bien. J'ai beaucoup aimé la diversité qui était exprimée dans la série, sans gros sabots. C'est-à-dire que c'était pas genre ouh, on a de la diversité. Ouais. Non, c'est naturel, c'est fluide, c'est cool. C'est-à-dire que c'est évident. Donc du coup, on se dit, en fait, ils n'ont pas eu besoin d'y réfléchir. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand vous sentez que dans une série ou dans un film, on a réfléchi à la diversité, là, vous vous dites, c'est pas terrible. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est pas tout à fait dans le côté, je suis pas vraiment raciste. Vous voyez, c'est le truc quand j'ai besoin de réfléchir à la diversité. Là, non, c'est très fluide et c'est très bien. Et puis, moi, je voulais souligner, la musique, elle est vraiment au top. Les choix que fait Nicolas Testa, c'est assez magnifique. Ça habille très bien l'objet. Et puis, c'est vraiment, je vous dis, le gars est très bon parce que, quand on fait des flashbacks dans la vie d'Anna, on a des musiques qui datent des années où elle était plus jeune, donc du coup ça nous renvoie à ces années-là sans qu'on ait besoin de nous dire vous êtes en 1993, vous voyez. Non, c'est vous comprenez au son. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, c'était ça qu'on passait à l'époque, vous voyez. Et donc c'est intéressant, et du coup je trouve que c'est vachement culotté d'arriver à habiller une série juste avec, habiller la temporalité d'une série avec la musique, et c'est très bien fait. Et il y a aussi un très grand jeu sur le son que je voulais souligner, que je trouve très très beau, c'est-à-dire on insiste sur des talons qui claquent, des portes qui claquent, des lits qui font un bruit particulier. Ça c'est pas sexuel d'ailleurs. Non, mais c'est on voit que c'est les petits trucs de la vie. Vous savez, quand on rentre chez ses parents, par exemple, et puis qu'on retrouve des choses qui ont des objets qui ont 20 ans, qui font un bruit particulier, qui ont une odeur particulière, ils arrivent à rendre ça, et je trouve ça cool. Voilà, je voulais le souligner. Voilà, vous avez compris que j'ai beaucoup aimé.
Mais parce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a des points négatifs?
Oui, j'en ai noté quand même. Alors, il y a un point quand même négatif. Il y a un petit côté halo de rose, un petit par moment. Mais je trouve que... Alors, c'est bien parce que c'est un point négatif. Mais je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Et c'est assez vite contrebalancé par des retournements de scénario. Et du coup, c'est bien parce que c'est comme la vie. Il y a des moments où on se dit, oulala, je suis cool, c'est halo de rose. Et puis, paf, un petit claque, ça va mieux. En fait, c'est... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit flottement à un moment donné où je me suis dit, oulala, ça peut tomber dans la série quand même hyper haut de rose et ce serait chiant. Mais en fait, non, ça va. Voilà. Et puis, moi, j'ai mis deux points faibles quand même. Il n'y a pas plus d'épisodes. Ça, c'est vachement dommage.
Voilà. Sacré point faible.
Sacré point faible. Et puis c'est quand la suite, quoi. Parce que, pour moi, c'est les deux gros points faibles de cette série, quand même, faut le dire. C'est que, non. Donc franchement, c'est vraiment très très bien. Moi, pour moi, c'est vraiment dans la veine d'un queer as folk anglais, ou même dans The L Word, dans la façon, en fait, de nous attacher au personnage assez fortement. Et avec la modernité, c'est-à-dire que c'est filmé vraiment comme on filme aujourd'hui, et c'est vraiment bien, quoi.
Moi, je voulais juste rajouter, bon, déjà, j'entends pas les musiques dans les séries, dans les films, tout ça, donc j'ai pas du tout fait attention à ça. Mais de toute façon, c'est filmé de manière beaucoup plus dynamique. C'est clairement, il y a un vrai. Le réal, il joue avec la caméra, il fait des flous, il fait des zooms, il fait beaucoup de choses. Il joue vraiment avec, il joue très bien avec, c'est vraiment bien à voir. Et la théorie du Y, en fait, ça serait plus. On s'oriente plus vraiment sur une série. C'est une série à tendance comédie romantique.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors que Les Engagés, faut pas le prendre comme une série. Si vous l'attaquez comme une série, en fait, on peut en être déçu parce qu'on ne sait pas vraiment une série. Il y a plein de clés qu'on a subi ou appris avec le temps, en fait, des séries, puisqu'on est dans une époque très très série. Et donc on a pas mal de petites lenteurs, pas mal de petites choses qui rentrent et qui font, qui donnent un rythme qui est différent. Et tout se passe d'une autre manière, en fait, et c'est moins série. Donc il y a pour moi, la théorie du Grec, c'est une série, une très très bonne série. Et Les Engagés, c'est pas une série. Ça a ses reproches, ça a ses choses bien aussi, mais attaquez-le pas comme une série, sinon vous serez un peu déçu.
J'aurais peut-être dû le faire comme ça. Parce que moi, je m'attendais vraiment à une série, enfin, comme c'est présenté comme tel, je m'attendais vraiment à une série. Et moi, ce que j'aime dans les séries, c'est m'attacher aux personnages, c'est avoir envie de savoir ce qui leur arrive, et pas être irrité par tous les personnages, en fait. Point quand même que je tiens à dire parce que c'est important à mes yeux, c'est que dans Les Engagés, il y a une chose que j'ai oublié de dire et que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas d'hétéro. Et moi, personnellement, c'est marrant, je vis pas dans un monde où les 90% d'hétéros ont disparu. Alors, je sais pas où vivent les gens désengagés, mais...
C'est peut-être pour ça que les rues de Lyon sont vides.
Ouais, c'est voilà. Non, mais c'est dommage parce que, on le disait, même le politicien qu'ils affrontent, du coup, c'est un peu étrange, quoi. Il y a un moment donné, on se dit, voilà, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve que c'est un peu déconnecté du réel et c'est un peu dommage. Mais par contre, je vais le redire, donc avant de passer à la musique.
Oui, c'est un parti pris, en fait.
Oui, c'est un parti pris,
parce
mais je trouve dommage.
Que le gars, il vit dans un monde type purement militant et.
Bah, il doit se faire chier le pont.
Ouais, enfin, oui, c'est.
Non, pardon, je suis un peu méchant, mais je veux dire, c'est terrible de se dire, ouais, on vit tous entre nous, quoi. Ça n'existe pas. Et voilà.
De toute manière, c'est un vrai parti pris parce qu'il y a quand même une. Nous, on se le dit un peu en mode reproche, cette idée que les personnages font partie de l'association ou sont engagés, etc. Et en fait, on les présente très très peu dans leur vie à côté.
Oui,
en fait, ils n'ont pas de vie à côté.
Mais du coup, ça manque parce
qu'on s'y attache moins, en fait.
Oui.
Là, dans la théorie du Y, on vous présente un personnage avec toutes ces petites. Tous les petits trucs, c'est-à-dire qu'on croit que la maman, c'est la plus sympa, elle est super cool, et en fait, elle est un peu plus casse-couille, elle a un peu plus de mal à comprendre les choses. Le papa, lui, inversement. Et parce qu'on les présente d'abord, la première entrée, c'est quelque chose de très de la vie. Enfin, c'est un personnage qui a une vie, qui a plein de choses autour. Et dans Les Engagés, on n'a pas ça. On arrive tout de suite sur le militant. Et c'est un parti pris. Mais ça fait qu'on s'attache un petit peu moins au personnage.
Et surtout, ça fait qu'il faut arrêter de croire que la militante, c'est détachée de la vie. En fait, elle entache la vie et inversement. Donc, du coup, c'est ça qui est un peu dommage. Mais je vais le redire, il faut regarder quand même Les Engagés parce que c'est intéressant, parce que c'est la première web série française et série française sur la thématique LGBT pure, comme on dit, dans le sens où c'est le cœur du sujet. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur YouTube en tapant Les Engagés. Et sinon, il faut aussi regarder La Théorie du Y. Et là, c'est plus mieux bien d'aller sur le site de la RTBF parce qu'ils ont carrément fait une page spécifique. Et voilà. Et alors, j'ai oublié de le dire, c'est à chaque fois des micro-épisodes, comme on dit, c'est-à-dire ça dure pour chacune des deux entre 6 et 10 minutes par épisode. Il y a 11 épisodes pour La Théorie du Y et il y en a 9 pour l'instant pour Les Engagés qui sont en ligne. Voilà, donc ça prend pas beaucoup de temps et ça vaut le coup de regarder les deux. Et puis moi, je suis preneur de retour. Donc si vous avez envie de me dire que je suis un gros couillon et que j'aurais dû aimer Les Engagés, vous avez le droit. Si vous avez envie de me dire que La Théorie du Y c'est nul et qu'en fait je suis trop fleur bleue, vous avez le droit aussi. Et ça se passe à lacausericadu@gmail.com ou sur le blog de l'émission. Et ce sera avec plaisir. Vraiment.
Sur le blog où on ajoutera justement les liens vers les séries, comme ça vous n'aurez pas forcément à chercher si vous n'avez pas envie.
Voilà.
Pardon.
Musique.
Allons-y. So called true story.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu ou sur radiocanu.org. Et donc, ben, je vous parlais de la musique dans la série La théorie du Y. Et vous y retrouverez donc Rosine Murphy avec Exploitation. Et juste écouter tout ce que fait Rosine Murphy, c'est vachement bien. Et sinon, ben, je voulais juste te dire que j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que les deux web-séries n'avaient pas des gros budgets. Donc, je parlais Les Engagés et La théorie du Y. Et donc, elles avaient à peu près le même. Voilà, c'était juste pour dire que c'est pas une question de budget, la différence de faire les choses. Voilà.
Yes.
Et continuons donc, bah tiens, t'as parlé de la Guyane et du fait qu'on rémunérait des curetons là-bas, et il paraît qu'à d'autres, dans d'autres pays, on enlève enfin le blasphème, j'ai pas réussi à le dire, mais je vais le redire.
On est fatigué ce soir, je crois. Oui, c'est au Danemark, le vendredi 2 juin, les députés du Royaume se sont prononcés majoritairement en faveur de la suppression de l'article 140 du Code pénal, adopté en 1866. Il est temps quand même hein, d'abroger des vieilles lois toutes pourries. Alors l'article visait, entre guillemets, celui qui publiquement insulte...
Il est parti.
N'a jamais été seul.
Celui qui n'a jamais... Oui, c'est vrai. Une remontée de musique de merde. Mais vas-y, continue.
Ok. Alors, je reprends. L'article visait entre guillemets celui qui publiquement insulte ou tourne en dérision la doctrine ou le culte d'une communauté religieuse légalement reconnue. Fermons les guillemets. Donc le vote a eu lieu après le revirement des libéraux qui étaient jusque-là opposés à la réforme, mais qui ont cédé à leurs alliés gouvernementaux, c'est-à-dire le Parti conservateur et l'Alliance libérale. Le député d'opposition qui a l'initiative de l'abrogation, c'est un député de l'Alliance Vert-Rouge, du, j'aime bien le dire les noms, du Haut Folketing, c'est le Parlement danois. J'apprends des mots. Il a déclaré, donc il s'appelle Bruno Hierup, il a dit donc, la religion ne doit pas dicter ce qui est permis ou ce qui est interdit de dire publiquement. Et il a rajouté que désormais, nous pouvons avoir des discussions plus libres et moins préconçues sur les religions. Ce que je voulais rajouter encore, c'est vite fait quand même, parce que c'est des petites infos qui sont quand même intéressantes, c'est que les services de renseignement ont prévenu à leur tour qu'une modification du code pénal pourrait un petit peu augmenter, je cite, hein, les menaces contre le Danemark et les intérêts danois à l'étranger, et en étant utilisée, entre guillemets encore une fois, pour créer une attention négative à l'égard du Danemark.
Alors, donc ça veut dire que les services de renseignement, pour traduire, disent, comme on a des fanatiques religieux qui se font péter la gueule au nom de leur religion, surtout, continuons à protéger les religions chez nous, parce que sinon, ils vont nous péter la gueule, vous voyez. Mm-hmm. C'est surréaliste comme phrase.
Bah ouais, surtout que moi, je croyais que Christine Boutin et tous les fous de Dieu, ils avaient rien à voir avec la religion.
Bah ouais.
Pouh, c'est à ne plus rien comprendre. Enfin, je voulais quand même rajouter que les députés, ils en ont eu un peu rien à foutre, en tout cas, de cette mise en garde, et la chef de la diplomatie danoise, qui s'appelle Anders Samuelsen, a salué, je cite, cet adieu à une limitation de la liberté d'expression. Et il faut quand même savoir que seuls les sociodémocrates ont voté contre la réforme du code pénal, en ajoutant, je cite encore une fois, nous avons du mal à voir en quoi nous obtenons une démocratie plus forte, une unité et un meilleur débat démocratique en autorisant à brûler des livres, des écrits saints, a réagi sa porte-parole Trine Bramsen. Pour compléter quand même ce qui est dit là, c'est qu'en fait elle fait référence en fait à un mec de 42 ans qui en février 2017 a été envoyé devant les tribunaux pour avoir publié sur Facebook en 2015 une vidéo le montrant en train de brûler le Coran dans son jardin. Donc son procès pour blasphème, c'est bien ça le truc, aurait dû débuter le 7 juin. Donc logiquement, lui, il pourra pas passer, en tout cas pour blasphème.
Oui, mais il peut passer pour
et justement, moi, c'est là où elle se plante et que je trouve que c'est vraiment caricatural, même sa position. C'est-à-dire que, enfin, pour moi, là, c'est pas le blasphème, en fait. Le problème, c'est que si le mec, il fait un appel à la haine, si c'est un appel à la haine, son acte, on le juge pour appel à la haine et tout ça. Et qu'en même temps, enfin, il suffit pas de brûler un livre saint, enfin, je veux dire. Là, on va me dire, ah, tu soutiens les nazis? Non, pas du tout. Attention.
Il ne faut pas brûler de livres.
Non, mais après, je me dis aussi, qu'il peut y avoir des démarches artistiques.
Oui, ou de dénonciation.
Ou de dénonciation où on brûle un livre saint. Et il est saint que pour ceux qui y croient, encore une fois. Donc, là aussi, après, c'est, enfin voilà, je trouve ça juste un petit peu caricatural, la position de cette social-démocrate. En même temps, ils nous habituent pas mal.
Il faut rappeler que les sociaux-démocrates danois sont issus quand même au départ du parti protestant. Donc, ils sont quand même majoritairement protestants et majoritairement pro-religieux. Et c'est pas nouveau, quoi.
C'est ça. Et surtout qu'en plus, enfin, ce qui est intéressant, c'est que la ministre de la Justice, elle a juste rappeler qu'en fait les déclarations ou les actions qui menacent, moquent ou dénigrent des groupes pour leur religion, bah ça reste passible d'une enfin d'une
bah oui.
D'un jugement quoi. Enfin donc on part pas dans un truc d'un coup à lâcher prise à tous les fascistes, etc. C'est pas du tout le propos.
Pour assurer cette
je sais pas si elle nous écoute.
Si elle nous écoute, hein, mais je pense qu'elle ne fait que ça, comme toute l'Europe s'arrête à 22h pour écouter la causerie. Non, en fait, c'est par exemple l'exemple d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'en France, on n'a plus le délit de blasphème. Par contre, quand Éric Zemmour dit musulman au lieu d'arabe pour pouvoir balancer ses saloperies, il passe quand même en jugement, il est jugé et il est condamné parce que c'est un peu gros et ça se voit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est le truc. Donc il faut un peu arrêter de croire que c'est parce qu'on enlève le délit de blasphème qu'on protège, parce qu'on garde le délit de blasphème qu'on protégerait mieux les gens. En fait, on empêche juste la critique du religieux.
C'est ça.
Mais ça, par contre, c'est problématique quand on est dans un, dans, justement, il parlait d'unité, machin et
oui,
compagnie. Moi, j'aimerais leur rappeler à ces personnes-là qu'il y a aussi des gens qui ne croient pas et qui, quand il y a une loi sur le blasphème, se retrouvent accusés parce que, en fait, ils disent tout simplement, j'en ai marre de ces conneries, vous voyez.
C'est voilà. Ça. Mais c'était un peu un petit rappel que je voulais faire quand même, c'est que déjà, les Nations Unies et le Conseil de l'Europe considèrent, en fait, les lois sur le blasphème comme une atteinte à la liberté d'expression. Je trouve ça intéressant quand même en fait de le savoir et faut aussi se rappeler quand même hein, que dans plusieurs pays européens comme par exemple la Grèce ou l'Italie ou l'Irlande pardon ces lois-là existent encore hein, les lois sur le blasphème.
L'Allemagne aussi.
Et oui et l'Allemagne aussi et il est intéressant de rappeler qu'en 2014 par exemple un blogueur grec bah il a été condamné à 10 mois de tôle avec sursis peut-être mais quand même pour blasphème. Car il avait parodié un ecclésiastique orthodoxe grec sur Facebook.
Oui, pour dire qu'ils avaient plein de thunes, justement.
Donc il est là le problème, c'est-à-dire que protéger, être contre le blasphème, c'est aussi, vous voyez, tous ces gens-là en tôle, c'est aussi laisser les Rafik Badawi se faire molester par les pouvoirs dans d'autres pays parce qu'ils ont juste le malheur de dire de se foutre de la gueule de religion et aussi ne pas oublier celles et ceux qui se font tuer juste parce qu'ils sont libres penseurs et libres penseuses et que là encore une fois ça serait un petit peu lâche que de ne pas les soutenir eux plutôt que le pouvoir des religions qui ont emprise sur le monde depuis des milliers d'années. Voilà pour moi.
Pardon, ouais, c'était merci.
Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir.
Et comme on est à la bourre, comme toujours, nous allons faire un petit jingle. Tiens, voilà les brèves.
Les brèves.
Waouh, quel modernisme.
C'était un jingle à la bouche.
Pardon.
J'ai droit.
Ça commence lundi. Lundi. Moi, je voulais commencer par rappeler un rendez-vous que vous aviez donné la semaine dernière. Parce que oui, on vous écoute. Même quand on n'est pas là. C'est une cellule de surveillance, hein, c'est normal.
Oui.
On
se sent écouté partout.
Je me reprends. Donc c'est Tinan et Sovat qu'on avait reçus à la causerie pour Alliance pour la démocratie.
Olaos.
Merci. C'est magnifique. Je continue. Pour une manif, en fait, qui aura lieu demain à Strasbourg. Ouais, c'est pas forcément à côté, mais c'est possible.
Faut partir maintenant, là, par contre.
C'est ça. C'est pour donc la démocratie au Laos. La manif aura lieu devant le Parlement européen entre 9h et 12h. Pour celles et ceux qui veulent rentrer en contact avec Tinan, alors je pense pas que c'est pour partir ce soir pour demain, mais si vous y êtes sur place ou autre et que vous voulez la rencontrer aussi, c'est une occasion peut-être, vous pouvez la joindre au 06 50 30 73 20. 06 50 30 73 20. Voilà pour cette news concernant la démocratie au Laos. On continue.
On continue comme tous les lundis. Permanence juridique d'entraide aux sans-papiers à La Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e. Et il y a un autre rendez-vous.
Oui, c'est transidentité. Parents-enfants, à vous la parole. C'est au bar des Feuillants, de 19h à 21h. Alors le bar des Feuillants, c'est sur les pentes de la Croix, en bas des pentes. Donc c'est proposé par l'association Jardin d'été, qu'on connaît aussi, qu'on a reçu ici. Et donc c'est autour des relations entre parents trans et enfants trans et parents, etc. Donc c'est vraiment intéressant, c'est de poser des mots sur nos vécus et tout ça et tout ça. Donc je trouve ça très très bien.
Pardon. 19h à 21h.
C'est ça.
Ensuite, on passe au mardi 13 juin 2017. Alors, sur les ondes de Radio Canu, à partir de 10h du matin, mardi, vous aurez le début de la série radiophonique Rock Against the Police. Non, Rock Against the Police. Oui.
Non, c'était juste pour dire, c'est après la formidable émission Martin Lovers.
C'est vrai, tout à fait. Et donc, bah, il y a 6 épisodes hein, qui seront diffusés jusqu'au 18 juillet, donc du 13 juin au 18 juillet. Voilà, bah, c'est autour de la notion d'auto-organisation dans les quartiers et de musique pour accompagner tout cela.
Superbe. On passe à la suivante. C'est la situation des lesbiennes, gays, bi et trans en Tunisie. C'est proposé par Shams. C'est donc proposé par Shams, la Ligue des droits de l'homme, Agir pour l'égalité, la Maison des potes. Et c'est donc la diffusion du documentaire dans le pays de la démocratie naissante. Ce sera suivi d'un échange avec Yad, qui est donc, comme vous le savez, enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent, fondateur de Shams France. C'est de 19h à 22h au local de la Ligue des droits de l'homme, 34 cours Verdun, dans le 3e arrondissement. Et vraiment, j'invite toutes celles et ceux qui n'ont pas pu aller le voir quand il a été diffusé au centre LGBTI, d'aller le voir. C'est très, très, très intéressant et très touchant aussi. Voilà, pardon.
Le jeudi 15 juin 2017, un concert de soutien au collectif ZAD avec Duval MC et Bing O. Alors c'est au Rafio, et comme d'habitude quand c'est au Rafio, si tu veux plus d'infos, tu envoies ça à concert15juin@riseup.net. concert15juin@riseup.net, le tout tout attaché. Et 15 en 1-5.
C'est ça.
En chiffre.
En chiffre.
J'ai perdu le mot chiffre. Voilà.
Je peux rajouter déjà la rencontre littéraire autour de l'œuvre de Gabriel Witkop, organisée par l'association Contact. C'est l'occasion de redécouvrir l'œuvre de cet artiste souvent comparé, au Marquis de Sade. C'est à 19h au centre LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins dans le 1er arrondissement.
Et là, il va falloir choisir. Parce que moi, j'ai une info. Un débat. Dans la vie au travail, gagnons l'égalité, qui est organisé par l'UDCGT du Rhône. Alors, il y aura la diffusion du film Pride aussi, et un débat autour des axes de lutte pour faire progresser les droits des personnes LGBTI dans le monde du travail et dans la vie. Et il y aura la présence de Lionel Goulette du collectif LGBTI de la CGT. C'est à 18h à la Bourse du Travail, place Guichard, dans le 3e.
Et une autre info pour jeudi 15 au soir, ce sera pour aller danser, bouger, tout ça. Bah, parce qu'il y a les Kings Queer qui sont en concert.
On fait vraiment de la retape hein, ce soir.
Mais ouais, non, c'est drôle. Qui sont en concert, alors je crois que c'est normalement sur Villeurbanne, c'est au Rita Plage. Vous tapez Rita, RITA-6plage.com et vous aurez le site et le programme et tout ça, et tout ça. Voilà.
Voilà. Le vendredi 16 juin 2017, projection de Gender Trouble, The Butchies. De Lisa Plourde, proposé par le collectif lesbien lyonnais. C'est un événement en non-mixité choisie Meuf Gwyn Trans. C'est à 19h30 au centre LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins, dans le 1er.
Et on continue avec le samedi. Oui, c'est un long, long agenda cette semaine.
C'est la quinzaine.
C'est la quinzaine.
C'est vrai.
Et ça recommencera la semaine prochaine, d'ailleurs.
Forcément. Eh ben, samedi 17, en tout cas, je vous invite à participer à la marche des fiertés de Lyon, à la marche des fiertés LGBTI de Lyon. C'est départ à 14h de la place Bellecour et le mot d'ordre que je trouve waouh, pour une fois très intéressant. Enfin, une fois de plus. Ici et ailleurs, nos droits ne sont pas négociables.
Voilà. Et alors, il y a aussi le March Mash Slow. Alors voilà, je vais lire pourquoi. Parce que les discriminations nous concernent toutes et tous. Dans une dynamique de convergence des luttes, l'association FRIS et le CRS animent un groupe formé de personnes LGBT en situation de handicap visible ou invisible et d'associations alliées, APAS, GEMNOVA. L'objectif est de favoriser leur accès au centre LGBTI de Lyon et de faciliter leur participation à la Marche des Fiertés, d'où le nom du groupe March Slow. C'est à 14h, hein, au même moment que la marche des fiertés. Ça se passe au centre LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins, Lyon 1er. Et je trouve l'initiative géniale.
Ouais, très très bien. Et puis, ben, après qu'on ait marché tout ça quand même, eh ben, faut aller à l'apéro Pride, dont les bénéfs vont directement dans les caisses du centre LGBTI de Lyon. C'est donc à 19h. toujours au centre LGBTI de Lyon, ce qui est toujours, s'il n'a pas déménagé entre 14h et 19h, au 19 rue des Capucins, dans le premier arrondissement.
C'est même généralement dans la rue devant le centre. C'est assez cool, venez,
oui.
C'est bien.
Oui.
Et puis pour finir, il y a une semaine de lutte et de débat qui démarre à partir du samedi 17 juin sur Bure. Mais alors comme franchement Bure, c'est pas à côté et qu'on n'avait pas la liste de toutes les infos, on va vous dire, allez sur rebellion.info, vous trouverez toutes les infos sur ce qui se passe à Bure et autour de Bure. Alors vous savez, Bure, c'est le centre d'enfouissement des déchets nucléaires que veut nous imposer ce gouvernement hautement démocratique. Voilà.
Et bien c'est tout pour les brefs, c'est tout pour la causerie, je crois bien.
On s'excuse, il fait une chaleur à crever dans les studios, on est à moitié mort, c'est pour ça qu'on bégaye, tout ça.
Et la semaine prochaine, on sera tout nu, vous inquiétez pas.
Ouais, super, vivement la semaine prochaine.
Évidemment.
On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine.
Oui, et on se quitte avec quoi?
Alors on va se quitter avec MC Xander, Sick of the Lies. Et alors on va se quitter sur une version qui dure 5 minutes, mais je vous conseille d'aller chercher celle qui dure 10 minutes sur internet. Elle est juste incroyable. Voilà. Là c'est la version un peu moyenne, mais j'avais envie de la passer.
Ah ouais, toi tu passes les trucs moyens dans la cause.
Ouais, parce qu'en fait, si j'arrive avec une musique de 10 minutes, on me dit non. Voilà.
C'est pas totalement faux, mais.
Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. La causerie, 22h-23h, toujours sur les ondes de Radio Canu. Et puis, ben voilà, bonne semaine. Bonne nuit, des bisous.
Gros bisous à tout le monde.
Ciao.
Ciao.
Everybody, we better start celebrating. People all around, we better start celebrating. Come into it, communicating with animal better to that community is created. I can see that we need intelligence operating within the comments of TNRS 2018. We need true intentions, they're not just faking. We got no time for stolen.